Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Évidemment, comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end, profitez-en bien, c'est ça le plus important. De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech de la fin de la semaine, à la fois en audio, le podcast. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en faisant du sport, en voiture, etc. Et puis la version vidéo qui vous attend sur YouTube, bien sûr, la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi sur la chaîne Tech & Co, disponible sur les box opérateurs. Bref, on est partout, merci d'être là. Avec au menu pour ce De quoi je me mêle, eh bien, dans quelques minutes, on s'intéressera à l'actualité spatiale, qui est plutôt chargée en ce moment. Hein. Entre le salon IAC qui s'est déroulé, porte de Versailles, il y a quelques temps de cela, la mission DART, Artemis, vous le savez, qui retourne dans le hangar, on a pas mal de choses à se raconter, et ce sera avec un spécialiste, Antoine Meunier, qui vient de temps en temps nous tenir au courant de toute l'actualité spatiale. Ce sera en deuxième partie. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actualité. Mais tout de suite, pour débuter, c'est toute l'actu de la semaine. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et le club de la presse IT, cette semaine, c'est avec une nouvelle. Les amis, je vous demande d'applaudir comme il se doit. Je vous demande de vous lever, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, pour accueillir comme il le faut Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Bonjour François.
Mais ravi de te de t'accueillir dans De quoi je me mêle.
Écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Moi qui t'écoute d'habitude religieusement. Là, je suis à tes côtés, ça me fait bien plaisir.
Ben, pareillement, Mélinda qui est une déesse de la tech depuis quelques temps, on va dire, et qui donc vient d'arriver dans la rédaction de Tech & Co. Donc, on la retrouvera de temps en temps à peu près dans toutes nos émissions pour partager avec elle sa passion des nouvelles technologies. Mélinda teste beaucoup de produits, s'intéresse à tout, au gaming, etc. Et on va se faire notre premier club de la presse IT tous les deux.
Mais oui, en tête à tête avec plein de gens, mais en tête à tête, ça me fait bien plaisir. Hein
côté actu, il y a pas mal de choses cette semaine. On va commencer par Amazon, Mélinda, qui, tout comme Apple, tout comme Google la semaine prochaine, Microsoft un petit peu plus tard, Facebook aussi, fait sa petite keynote de rentrée, tranquillou bilou.
Bah oui.
Pour annoncer, en fait, c'est Amazon Devices, hein, donc oui. C'est vraiment la branche produit d'Amazon qui a déroulé donc toute sa roadmap pour la fin de l'année.
Ah ben, et puis alors là, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, il y avait de quoi faire au niveau produit. Alors Amazon, ça fait quelques années, on sait qu'ils arrivent, il y a eu l'enceinte Echo oui. portée Alexa, mais alors maintenant, on est loin de tout ça, il y a des télés, des liseuses, des appareils pour regarder la télé en streaming à toutes les sauces, pour tous les budgets. Évidemment, le cœur de tout ça, c'est notre ami Alexa.
Et oui, bien sûr.
Parce que sans Alexa, il n'y a pas de produit Amazon, ouais, en fait.
Tout à fait.
Et leur idée, on a...
C'est le point commun, c'est-à-dire que tous les produits qui ont été présentés ont Alexa et répondent ouais. à la voix, quoi.
Hormis la liseuse Kindle,
oui, hormis
c'est
la
bien
liseuse.
La dernière qui résiste.
C'est vrai.
Il y a du Amazon absolument à toutes les sauces et c'est un peu le mot d'ordre, le leitmotiv de toute la conférence. C'était tout ce qu'on peut faire pour vous, limite en arrière-plan, sans que vous en aperceviez.
Ouais.
Ils ont quand même dit 90% des routines, c'est-à-dire de toutes les actions réalisées par vos produits Amazon, en fait, sont faites en background, sans intervention de l'utilisateur, pour que justement, eh ben, ils puissent profiter pleinement du reste de la vie.
D'accord.
Donc Alexa, à toutes les sauces, il y a des nouveaux Echo Dot. Tu sais, c'est cette petite boule. Alors, il y a la version Echo qui est désormais ronde de l'enceinte connectée. Et l'Echo Dot, c'est vraiment le tout petit module qu'on commence à voir un peu fleurir partout, même dans les hôtels. Il y a de plus en plus d'hôtels qui deviennent connectés et qui ont cette petite boule. Et bien là, ils ont ajouté sur cette, je crois qu'on a la cinquième génération.
C'est l'Echo Dot.
L'Echo Dot, exactement. Ou Echo Dot avec horloge aussi. Ça, c'est pour ceux qui veulent se réveiller avec la douce voix d'Alexa ou de la radio. ils ont rajouté le capteur de température. Alors tu sais, on en avait parlé au moment de l'Apple Watch.
Oui.
Il y a ce capteur de température, mais qui n'est pas vraiment un capteur de température, qui sert à suivre le cycle d'ovulation
oui.
chez les femmes. Là, en fait...
C'est-à-dire qu'il ne donne pas la température, hein, pour être bien précis.
Sur l'Apple Watch, il ne donne pas la température.
Voilà. Si vous avez de la fièvre, il ne va pas vous le dire.
Non.
Mais en revanche, il arrive à détecter les infimes différence de température tout au long d'un cycle.
Exactement.
Et c'est ça, en fait, qui détecte.
Exactement.
Peut-être qu'après, avec une mise à jour, on arrivera à avoir des informations plus précises sur la température corporelle.
Hein. C'est exactement ce que je leur avais demandé chez Apple. Je leur ai dit, mais justement, c'est bien le capteur de température, mais en fait, oui. c'est pas ça qu'on
non.
s'attendait. Mais comme ils n'ont pas de certification officielle, eux, ils estiment que c'est un indicateur, mais si quelqu'un veut savoir s'il a 36,2 ou 36,3 de fièvre,
c'est pas bon.
C'est pas encore ça. Donc, ils ne veulent pas l'avancer comme un capteur de température pour la fièvre.
D'accord.
Là, on est sur autre chose. Dans l'éco-dot, le capteur de température, il va permettre de savoir la température de ta pièce. Ce qui fait que s'il fait trop chaud, bah, il sait qu'il faut baisser les radiateurs.
Et oui, parce que tout ça est connecté à l'environnement Alexa.
Oui, évidemment, c'est ça le but du jeu, ouais. Sans avoir de thermostat, parce que là, c'est ça qui sera utile. On parle souvent des thermostats connectés à installer sur ces chaudières. Mmh. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde ne sait pas forcément faire. Et bien avec ça, votre radiateur connecté à Alexa pourra savoir si la température a baissé. Avec le capteur de présence intégré, ils nous disent même qu'ils sont capables de savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce et donc de faire jouer les autres appareils.
Pas mal.
C'est quand même
pas mal. Et oui,
puis
en plus avec le micro, ils peuvent entendre du bruit, enfin des choses comme ça.
Exactement, exactement. On rappelle, toutes les données restent sur l'appareil. Mais
bien sûr.
Voilà. Alors il y a ça aussi, c'est tout bête ce petit geste, mais la commande gestuelle arrive dessus. Mmh. En fait, avant il y avait un bouton physique et si vous vouliez couper... Vous pouviez.
Il y a un truc intéressant. Donc, on voit qu'elle s'améliore de génération en génération.
Le son, c'est tout à fait normal.
Le son, bien sûr, aussi. Et le répéteur Wi-Fi. J'ai vu que sur des Echo Dot, il y avait un répéteur Wi-Fi qui permet donc d'amplifier en fait ton réseau Wi-Fi de la maison.
Exactement.
Alors c'est pas bête aussi.
Ça, c'est pas mal. Alors, il faut avoir le Hero, qui est la gamme de routeurs.
C'est les répéteurs Wi-Fi d'Amazon.
C'est la gamme d'Amazon. Et ils font un truc qui est pas mal. Il y a cet esprit-là aussi chez Apple avec les HomePod mini, c'est-à-dire d'étendre votre réseau. Parce qu'aujourd'hui, bah, dans une maison, pour des raisons diverses, les murs, la structure... Le réseau Wi-Fi n'arrive pas à être amplifié. Donc, il y a ce qu'on appelle le réseau mesh qui fait que chaque appareil compatible devient un prolongateur, du Wi-Fi de votre maison pour connecter les autres appareils. Ça prend pas, il ne va pas vous servir de routeur Wi-Fi en revanche. Enfin, celui-là, peut-être, ce n'est pas très clair, mais il permet
Je pense que tu as raison, ce n'est pas un routeur Wi-Fi, ça amplifie en fait le réseau Wi-Fi d'Amazon en quelque sorte, ce qui est plutôt pas mal.
Mais c'est ça, c'est pas mal, moi j'aime bien.
Après il faut voir les performances, etc. Mais bon.
Hero c'est pas mal comme gamme, quand même, il faut le dire. Mais voilà. Ils ont sorti une nouvelle version de leur cube, le Fire TV Cube. Alors là on passe sur un objet qui sert à streamer, à transformer votre télé en télé connectée.
C'est l'Apple TV d'Amazon.
C'est l'Apple TV avec une bonne enceinte. Mine de rien, il faut quand même le dire, qui arrive en 4K cette fois. Alors qu'il y a une petite astuce, c'est tout bête, quand ils l'ont présenté, c'est vrai qu'on se dit, oui, pourquoi, mais en fait, en y réfléchissant, c'est très utile. Il y a deux ports HDMI au dos, mais il y en a un d'entrée. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les consoles, les boîtiers comme ça, tout-team, les barres de son...
Les PC aussi, si tu veux, par exemple, veux bosser, te faire de la visio et des choses comme ça.
Voilà, bah, le nombre de prises HDMI sur le côté des télés, c'est pas, c'est assez limité et on évite... Si vous êtes comme moi, à avoir plusieurs consoles, à brancher, débrancher, ce qui n'est pas bien. Là, en fait,
Mélinda a 128 consoles chez elle.
Non, mais Mélinda, elle joue beaucoup. Donc...
Mélinda joue beaucoup.
Mais c'est vrai que là, bah, c'est une prise de plus, mine de rien, d'entrée, qui passera par la box, enfin par le cube, pour la télé, ça libère.
Puisqu'on est dans les Fire TV, on n'attendait pas Amazon sur la télé. Alors, ils sortent des télés, QLED. Fire TV intégré, etc., etc., à des prix défiant toute concurrence. Bon, il y a un petit bémol, c'est que ça sortira pas en France.
Bah écoute, pas pour le moment. Ça, c'est quand même bien triste parce que moi, c'est limite le produit qui m'a fait plus envie pendant
la
conférence.
C'est vrai.
Cette télé, elle est très très belle. QLED, comme tu dis, 65 ou 75 pouces, donc on n'est pas sur du petit modèle.
Ouais, 75, ça commence à être cool.
Elle est à la fois télé très haut de gamme, puisqu'au niveau de tout ce qui se fait. Au niveau du son, donc HDR10+, Dolby Vision++ et tout, il y a vraiment
QLED, donc c'est une technologie quand même assez aboutie.
Bel écran, alors on rappelle, OLED et QLED, c'est pas la même chose,
non.
C'est du LCD++.
Tout à fait.
Mais surtout, c'est une espèce d'énorme éco-show. Alors il y avait déjà le tableau 15 pouces qui était là et qui va d'ailleurs hériter de l'expérience Fire TV. Là, c'est la même chose. Vous aurez l'aspect télé et l'aspect téléconnecté, les widgets. Ça, c'est génial. Moi, j'ai l'Echo Show 15, qui est une espèce de tableau de contrôle maison. Vous pouvez avoir vos rappels, la météo, les rendez-vous, l'agenda des enfants, la playlist musicale, la liste de courses que vous faites avec Alexa intégrée. Donc, votre télécommande, vous pouvez la laisser dans un coin.
Pas mal.
Donc, non, franchement, c'est un super produit. À partir de 800 $, hors taxe toujours, donc à peu près 800 euros, Moi, ça m'a bien fait envie quand même.
Ouais, mais voilà. Ça ne sort pas en France pour l'instant.
En France pour le moment.
Dernier produit qui mérite notre attention, Mélinda, c'est cette liseuse, donc la Kindle Scribe, qui est un produit assez innovant, mine de rien, à la fois liseuse, mais aussi tablette avec un stylet.
Alors, très grande liseuse, hein, parce que 10 pouces, donc ouais. Quand même très, très grande liseuse, assez fine, je crois qu'elle fait moins de 6 mm d'épaisseur, donc on est bien, elle vient avec...
La taille d'un iPad à peu près.
C'est un iPad, exactement, avec le stylet inclus. Message.
qui se colle sur le côté, parce qu'il y a un truc magnétique.
Voilà, qui s'aimante, qui n'a pas besoin de se recharger.
En plus.
Apparemment, puisque ici, en fait, c'est pas un écran couleur.
Non.
C'est un écran paper white. Ouais. Exactement. C'est de l'encre électronique. Donc, ça va permettre de dessiner, d'écrire, d'annoter. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la présentation, c'est l'annotation des livres. Parce que, bon, c'est sacrilège d'écrire sur un livre. Sur un livre numérique, c'est moins grave.
Oui, c'est vrai. Tu peux effacer au pire.
Voilà. Et en plus, le stylet permet d'effacer, permet de surligner.
Ouais.
Mais surtout, toutes les notes que je pense notamment aux étudiants, toutes les notes de lecture que vous allez prendre, elles sont après répertoriées page par page dans un autre document que vous pouvez partager. J'ai bien aimé, elle est assez belle. La feinte sur ces produits-là, parce qu'il en existe d'autres sur le marché qui ne sont pas de très bonne qualité. Il y en avait quelques-uns qui étaient sortis, mais ce n'était pas terrible. C'est la réactivité du stylet.
Ça, c'est important
pour
bien écrire.
C'est vraiment le problème. Je pense qu'en ne se mettant que sur de l'encre électronique, déjà, il limite tout ce qui est temps de réaction.
À tester en tout cas, parce que c'est intéressant.
Moi,
on l'a vu aussi, elle est rétroéclairée.
Ouais.
Vous allez pouvoir.
Enfin.
Voilà, vous pouvez. Je crois qu'elle va être bientôt compatible avec Word. Donc, toutes les notes que vous aurez prises, vous pourrez les retranscrire sous Word. Donc, ça peut être pas mal. Un outil un peu, on va dire. Voilà, entre le travail et le divertissement, voir.
Franchement, ça mérite...
Et puis l'autonomie, c'est ça qui est top, avec ce type de truc.
Des mois.
Voilà, puisqu'on est sur de l'encre électronique.
Exactement.
Voilà. C'est pas mal.
Juste petit bémol, on oublie sur la télé. Moi, il y a un produit qui m'a fait aussi, qui m'a bien plu, parce que alors, tous les gens qui ont des Apple TV hautes vont être très contents. La télécommande qu'on peut enfin retrouver. C'est tout bête, mais on est nombreux à avoir plein de télécommandes, à jamais savoir où elle est. Là, il y a un système pour justement demander, Alexa toujours... Retrouve-moi la télécommande et elle va vibrer, sonner.
D'accord.
Surtout, elle va se rétroéclairer en clignotant pour pouvoir être retrouvée dans le noir.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça génial.
Oui, la balise télécommande.
Mais oui, mais
c'est
tu
ça.
Ne perds jamais de
télécommande. Mais bien sûr, évidemment.
Donc,
évidemment.
Voilà.
C'est le grand drame de la maison, ça, dans la famille. Hein.
Mais quand
où est la télécommande?
Eh bien là, tu demanderas à Alexa et elle te la retrouvera.
Ouais, c'est vrai.
C'est génial.
Bon, merci Amazon. On attend la riposte de Google. C'est ça qui va être intéressant. C'est que dans une semaine, le 6 octobre, Google va faire son show, va sans doute présenter de nouveaux produits Nest Audio, etc. Enfin, toute la gamme. Ça va être intéressant de voir si Amazon et Google partent dans la même direction.
Mais on ne sait pas déjà tout de la conférence Google ?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ?
Il
y a le Pixel 7.
Oui,
d'accord.
Le Pixel 7, le Pixel 7 Pro, la montre.
Il n'y aura pas d'enceinte audio ? Il n'y a pas des petits trucs comme ça, sans doute ?
Je pense que c'est le vrai mystère. Non, mais je rigole là-dessus, mais tu sais, à la conférence précédente, ils avaient déjà annoncé les produits
bien
suivants.
Sûr, bien sûr.
Ils ont tellement peur des leaks que
finalement... Ils disent, OK, vous savez quoi ? Je vais tout vous dire.
Mais tu vas sur le compte Google, sur Twitter, le compte Made by Google, il y a la vidéo du Pixel qui n'est pas officiellement annoncée. Enfin, on sait qu'il arrive parce que ça, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais là, il y a toutes les images. Si vous voulez choisir votre coloris, allez-y, il y a déjà tout. On a toutes les informations.
Après, bon, c'est une autre manière de communiquer, pourquoi pas. Hein. Ça dénote du jardin secret Apple, par exemple.
Oui,
hein.
Mais par exemple, Apple ne tisse pas ses produits.
Non.
Tu vois, Google, ils le font.
Oui,
il y a beaucoup de marques chinoises qui se sont fait une
spécialité.
Après,
ils n'ont peut-être pas le choix. C'est-à-dire
je pense que c'est vraiment pour bloquer les fuites, parce qu'ils sont vraiment victimes, sur-victimes de fuites.
Hein. Voilà, tiens, puisqu'on parle des assistants vocaux, vous savez que les assistants vocaux sont en train de bouleverser notre quotidien. Alors, pour tous ceux qui l'utilisent, il y a des gens qui sont allergiques à ce type de choses. Moi, j'ai plein de copains et de copines qui ne veulent pas entendre parler des assistants vocaux, parce que voilà, ils ont peur, etc. Voilà. Mais à partir du moment où on en a, on se rend compte que toute la famille l'utilise, et notamment les enfants, Mélinda.
Mais oui, mais les enfants, aujourd'hui, alors quand on dit enfants, c'est vraiment jeunes, avant-ados. Hein.
Oui, bien sûr.
Ils naissent avec, ils grandissent avec, ils voient leurs parents, leurs grands frères et sœurs utiliser. Comment veux-tu qu'ils n'aient pas envie de faire la même chose ?
Non, mais c'est sûr.
Qu'on se le dise vraiment, quand t'es enfant, il n'y a rien de plus fun qu'un assistant vocal.
Évidemment.
T'as quelqu'un à qui tu parles,
mais
on a
tous
vu des petits robots, des petits personnages.
Et qui te répond, parce que quand t'es gamin, en général, tu poses tout le temps des questions, au bout d'un moment, ça saoule les parents.
Voilà.
Là, Alexa ou Google, ou même Siri, n'est jamais saoulé, quoi.
Évidemment.
C'est ça qui est top.
Au moins, il ne le dit pas.
Au moins, il ne le dit pas. C'est vrai.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent poser toutes les questions, donc des plus débiles.
Mais bien sûr.
Oui. Mais même les grands le font.
Mais hein, évidemment.
On va pas se mentir.
Évidemment.
Même les grands le font. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette étude qui est sortie cette semaine. À prendre avec des pincettes, mais qui avance des choses qui sont vraies sur les risques qu'encouraient les enfants à utiliser les assistants vocaux trop tôt. Alors, ce qui est, je trouve, assez drôle dans cette étude, c'est que ce n'est pas le rapport, comment dire, à la technologie en elle-même, les données, les trucs comme ça. On ne parle pas de ça, on parle en fait de leur rapport humain à venir.
Tiens.
Moi, c'est ça que j'ai trouvé rigolo,
ah,
c'est
oui.
S'ils utilisent un assistant vocal, ils ne vont plus savoir dire s'il vous plaît ou merci.
Ah.
Ils vont croire qu'on peut parler à un objet comme à un être humain et c'est un être humain comme à un objet. En fait, mais ça c'est vrai.
Mais c'est intéressant.
Ça pour le coup, je trouve que c'est vrai. On ne s'adresse pas à un assistant vocal de la même manière qu'on s'adresse à quelqu'un. Alors, c'est vrai et pas vrai. Ça dépend de votre âge.
Ça dépend du contexte.
Ça dépend
aussi.
Du contexte. Ça dépend de l'éducation aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Je sais que moi c'est bête, mais j'ai le réflexe de dire merci. Quand j'utilise un assistant vocal.
C'est vrai, tu dis merci Alexa.
Mais oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce qu'elle dit?
Alors Alexa, elle te répond.
Elle dit de rien,
je suis ravie. Alors
ouais.
Alexa, c'est l'assistant vocal le plus poli des trois.
Tiens, c'est dingue ça.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, chez Amazon, j'ai discuté il y a quelques années avec le responsable américain d'Amazon, et en fait, il expliquait qu'ils avaient fait plein d'études, alors comportementales, on dirait, sur le rapport des gens aux assistants vocaux, et notamment Alexa. Et en fait, selon la façon, le ton de la personne, et je pense qu'Alexa ayant un prénom féminin, on ne s'adresse pas pareil.
Oui.
Je ne le dis pas parce que je vais déclencher tout le monde, mais quand on dit Google, c'est pas pareil que d'appeler quelqu'un, moi je te dirais François, je te demanderais quelque chose. À partir du moment où on sort un prénom, on le dit gentiment.
Ça crée une proximité.
Il s'est aperçu que le nombre de fois que les gens disaient dans toutes les langues, et notamment en français, Alexa, je t'aime, tu es adorable, pour une réponse.
Tiens.
On parle à un robot, enfin c'est une intelligence artificielle. Mais voilà, je pense qu'il y a une éducation à faire.
Ouais, donc les enfants, on peut avoir peur du fait qu'ils considèrent que finalement un humain, c'est comme un assistant vocal et on lui parle, on lui pose la question de la même manière et on oublie les raccourcis, on va dire, de politesse. Quoi, en
plus prosaïquement, j'ai envie de dire, parlez bien à vos enfants, apprenez-leur ça et ils l'appliqueront.
Évidemment.
C'est pas pour une ou deux blagues potaches qu'ils vont faire à Alexa. Que ça va changer quelque chose. S'ils sont bien éduqués, il n'y a pas de raison que l'assistant vocal les déséduque ou mal éduque.
C'était notre rendez-vous éducation dans De quoi je me mêle. Merci en tous les cas.
Tu parles d'Amazon, mais Amazon lance Amazon Kids en France.
Oui, oui.
Voilà, comme quoi ils sont un peu soucieux du problème. Alors Amazon Kids, c'est Alexa pour les 3-12 ans. Donc, évidemment, extrêmement cadré, pas possibilité de demander tout et n'importe quoi,
d'accord,
de chercher. Mais c'est vraiment pour le jeu, l'aspect ludique, les interactions. Donc,
intéressant. Pas mal. Voilà pour Amazon. Je te propose d'enchaîner. On peut évoquer aussi, évidemment, les conséquences, on va dire, de cette guerre Russie-Ukraine qui impacte, évidemment, la planète entière avec des conséquences géopolitiques qu'on connaît. On ne va pas revenir, évidemment, sur tout ça. Mais ça a un impact sur toute la sphère tech et notamment chez Apple qui a été obligé d'expulser les applis de Vike, qui est une espèce de Facebook, Google russe immense.
C'est une espèce de conglomérat technologique russe qui a je ne sais combien d'applications.
Bien sûr.
La plus connue,
c'est... un peu comme Yandex aussi.
Yandex, c'est numéro un.
Voilà, c'est ça. Ce qui est un peu le Google...
Yandex, on dit toujours, c'est Google, en gros, parce que c'est un moteur de recherche. VK, c'est à peu près plutôt l'aspect social. Donc, ils ont VK Contact, qui est le Facebook russe. Donc
d'accord.
Genre plus de 100 millions d'utilisateurs.
Oui.
Enfin, on parle de l'échelle de la Russie et des pays russophones. Hein. C'est pas,
donc ça fait beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde. Ils ont mail.ru, donc, notamment. Ils ont des applis de photos, d'échanges. C'est énorme. On parle souvent de WeChat en Asie. Là, vous avez quelque chose qui, à l'échelle de la Russie, est énorme. Ce qui s'est passé, c'est que Apple a expulsé toutes les applications de VK, fermé tous les comptes développeurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez télécharger une des applications, quel que soit le pays du monde, ce n'est plus possible. Si vous
sur iPhone.
Sur iPhone.
Ouais. Il paraît que sur Google, ça marche encore.
Oui, Play Store, ils viendront plus tard. Pour le moment, oui.
Mais je pense qu'ils vont être obligés aussi, parce que ça fait partie un petit peu des mesures, on va dire, de restriction que les États-Unis, en tout cas, ou l'Occident, met en place contre la Russie,
non ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, Apple a dit, ça répond aux sanctions prises par la Grande-Bretagne contre la Russie. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils ont coupé les vivres des oligarques qui vivaient là-bas. Enfin,
ils n'ont plus leur yacht.
Ah ouais, ils n'ont plus leur yacht, ils n'ont plus leur compte partout dans le monde. Enfin, c'est difficile la vie quand même.
Oui. Ils n'ont plus leur duplex à Notting Hill, enfin tous ces trucs-là.
Mince, vie dure. Ils n'ont plus VK Contact pour partager les infos entre eux.
C'est ça.
Mais donc, Apple a répondu à ça. De l'autre côté, les Russes disent « Pas de souci, nous on continue à développer nos applications, elles reviendront quand elles reviendront. » Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle change de terrain. Alors on a souvent parlé des guerres technologiques et tout, mais là on est en fait sur une guerre des réseaux sociaux. Parce qu'en Russie, ils ont interdit Instagram, Facebook, Twitter. Pourquoi ? Pour éviter, comme ils disent, la propagande de l'Occident, mais aussi empêcher les informations qui venaient d'Ukraine. Mmh. On sait qu'il y avait des sondages qui avaient été faits auprès de la population russe il y a quelques mois. Ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait en Ukraine. Pour eux, il n'y avait pas d'infos et ce n'était pas vrai, c'était des mensonges, des fausses photos. Il y a vraiment une guerre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de milliards d'utilisateurs.
Bien sûr.
Tu coupes les informations, regarde la Chine, tu ne sais plus ce qui se passe ailleurs.
C'est vrai.
Donc, chacun y va de sa petite guerre des réseaux. C'est intéressant, cette guerre qui devient hyper sociale. Le président ukrainien, qu'est-ce qu'il fait ? Ses vidéos sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Lui s'est appuyé depuis le début. Mmh. Il a fait son image de chef de guerre sur les réseaux. Donc voilà.
C'est un média à part entière. Hein,
réponse du berger à la bergère, je te dis ça. C'est exactement ça.
Dans l'actualité aussi, peut-être un mot d'Apple qui, vous le savez, a sorti il y a quelques semaines de cela, donc sa toute nouvelle gamme d'iPhone. Tu y étais, hein, rappelons-le, tu étais à Cupertino, tu as pu toucher les produits. Tu les as testés d'ailleurs pour le site Tech & Co, que je vous invite à consulter bien sûr, hein, pour être au courant de toute l'actualité tech. On a une petite info qui est sortie là, qui n'est pas anodine. Hein. Il semblerait que les iPhone 14, donc les iPhone d'entrée de gamme, bon, ils sont à plus de 1000 euros, mais en tout cas,
aujourd'hui, oui.
les premiers iPhone 14, pas les Pro et les Pro Max, se vendent moins bien que prévu.
C'est pas surprenant, parce que si tu...
Et donc, alors, la conséquence et l'info, c'est que comme ils se vendent moins que prévu, et c'est Bloomberg qui dit ça, Apple réduirait la voilure en termes de production de ses iPhones. Parce que vous savez qu'Apple, ils ont une carte météo de production des iPhones. Et dès qu'ils voient qu'ils ont trop de stock, hop, ils ralentissent en fait la production de ce modèle qui se vend moins. Et là, visiblement, l'iPhone 14 serait dans ce cas-là.
Il limite la production, mais c'est pas... En fait, honnêtement, c'était à prévoir. Nous, on a testé... En effet, j'ai testé le 14 et le 14 Pro. Il y a des différences. C'est la première année où il y a des vraies différences globales entre les deux. C'est-à-dire que déjà, visuellement, on n'a pas le même modèle sur l'écran. La puissance n'est pas la même. Ils ont vraiment tout mis sur le 14 Pro, sur la gamme 14 Pro Pro Max. Toute la dernière techno, donc la fameuse nouvelle encoche, la puce dernière génération, le meilleur appareil photo... Et en fait, l'iPhone 14, il fait un peu parent pauvre.
Ouais, il ressemble beaucoup à l'iPhone 13, en fait. C'est ça, le souci.
Complètement. C'est déjà la puce du 13 Pro. Donc, on a juste switché un petit peu. L'appareil photo, alors, il est un petit peu mieux. Ils ont un petit peu changé du logiciel. Mais...
Oui, mais on n'a pas le 48 mégapixels du Pro Max. Mais enfin, du Pro et du Pro Max.
Voilà. Et en fait, ils ont fait à minima. Il aurait mérité de s'appeler 13S, hein, soyons d'accord, comme ils faisaient à une époque. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe pour lui ? C'était qu'hormis aux États-Unis, il a pris cher partout ailleurs dans le monde.
Bien sûr.
Comme tu dis, on est sur un produit d'entrée de gamme à plus de 1000 euros. Enfin, c'est délirant. En Europe, je pense qu'ils ont fait une croix sur le marché parce qu'entre la Grande-Bretagne et la France, où c'est le pays le plus cher au monde pour avoir l'iPhone, c'est pas viable. Donc, le 14 Pro se porte excellemment bien. Je pense que ça, on savait qu'il se vendrait mieux.
C'est du haut de gamme. Et donc là, comme il se différencie de par ses spécificités, alors il se différencie, c'est pas le jour et la nuit, mais il est quand même plus performant, il y a un meilleur appareil photo, enfin, etc.
À côté, il fait vraiment nouveau.
Oui, c'est ça.
Il fait plus puissant. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, puis nous, on a été les premiers à le dire, le 14, alors que les iPhone 13, les iPhone 12 de base, c'était vraiment des super produits rapport qualité-prix qui se sont vendus comme des petits pains, le 14, moi, j'encourage presque les gens à aller prendre un 13. Qui est moins cher. Alors, son prix n'a pas baissé par rapport aux autres années, mais il est moins cher que le 14.
Bien sûr.
Et franchement, il fait le job à fond. la différence de prix cette année, elle est difficile pour la France.
Et puis bon, après, on peut critiquer peut-être la stratégie tarifaire d'Apple. Hein. Rappelons que il a combien l'iPhone 14, je crois, il a 7,99, non ? Quelque chose comme ça, je crois.
Il a 800 euros ouais, aux États-Unis. Alors, voilà. Rappelons-le, aux États-Unis, c'est
après,
toujours
il faut rajouter les taxes.
Hors taxes.
Bon, tu rajoutes 50, 60 dollars, quoi, à peu près, c'est ça. Bah, tout dépend des États.
En gros, tu rajoutes entre 10 et 16% de taxes.
Bon, allez, admettons 100 dollars, ok,
voilà.
Maxi. Donc, tu es à 900. Là, tu es à 1029. Donc, et en fait, il coûte 129 euros de plus en France.
Ben oui, en fait, il ne faut pas oublier qu'en France, déjà, quand vous achetez un iPhone, normalement, si vous l'achetez aux États-Unis, vous devrez payer la taxe en local en plus.
Bien sûr.
Plus la
TVA.
Taxe pour quand le fait de le ramener en France.
Oui.
En plus, normalement, en France, on a différentes taxes qui s'ajoutent.
Taxe copie privée.
La copie privée.
Voilà. Qui est pas, qui est HEDV, hein, je crois.
Alors, ça dépend du stockage. Tu sais, elle est proportionnelle au stockage. C'est-à-dire, c'est plus vous. Enfin.
Quand oui, plus il y a du stockage et plus ça coûtera
plus
cher.
Plus ça coûtera cher. Mais alors après, on ne parle pas de 100 euros, hein, mais on est quand même déjà à 20 euros.
Ouais, et tous ces petits trucs qui se rajoutent font que.
Parce que moi, j'ai calculé la différence, la variation dollar-euro sur un an, on est à peu près à 15-16%.
Ouais, ce qui est énorme.
Ce qui est énorme.
Mais sur un produit à quasiment 1000 balles, c'est.
Voilà.
C'est...
Eh bien, en fait, quand tu mets tout bout à bout, tu es à peu près à 12-13% d'augmentation sur le prix, là, par rapport. Sur l'iPhone 13, le fait que.
Donc, ils ont fait des efforts, tu trouves ?
Alors. Moi, je ne vais pas dire ça non plus, mais je pense qu'ils ont limité la casse. Peut-être au moment où ils ont arrêté le prix, c'était ça le tarif. Mmh. Mais ils ont limité la casse par rapport à ce que ça aurait pu être si vraiment ils y étaient allés franco. Ça n'enlève rien au fait que le prix de base est peut-être élevé, mais la différence aujourd'hui,
tout à fait.
Elle est logique en fait.
Voilà, et comme tu le dis dans ton test, hein, si vous devez vous offrir un nouvel iPhone, voilà, en tout cas le 14, privilégiez le 13 parce que finalement, il vous coûtera moins cher et il est quasi équivalent, on va dire.
Quasi... Honnêtement, je trouve que c'est terrible à dire parce que c'est un très bon iPhone, l'iPhone 14,
oui,
mais en France,
c'est le prix
la
qui
différence
fait,
de
qui
prix ne
voilà.
justifie pas. Vous prenez le 14
le
Pro dans
tout.
Ces cas-là, carrément.
Dans l'actualité aussi, on voit qu'on vit une espèce de chamboulement en matière de contenu. Hein. On le voit, Amazon qui investit dans le sport, Apple aussi, hein, le foot, le soccer, comme on dit, donc le vrai foot, le foot, on va dire, européen, qui se déroule aux États-Unis. Ils ont acheté.
Ils ont acheté la Ligue américaine.
La Ligue américaine.
Ils ont acheté. Nous en parlons pas.
non, mais ils ont acheté les droits de diffusion.
Pour 10 ans en plus.
C'est
énorme.
Ils ont du baseball aussi, je crois.
Ils ont le match du vendredi.
Voilà.
Donc le Friday Night Game, c'est une institution aussi. C'est très drôle. Alors nous, en France, on voit Amazon, parce qu'Amazon a la Ligue 1.
Tout à fait. Ils ont
Roland-Garros. Ouais, ils ont plein de choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est très drôle. Ces services de streaming qui, pour enrichir leur offre et se démarquer, vont au-delà des films et des séries. Alors, il y a eu un temps, c'était le stand-up qui faisait venir, des documentaires. Aujourd'hui, c'est le sport. Et ils ont raison parce qu'en fait, le sport et les services de streaming ont une audience assez commune. En plus, le sport est peut-être plus large, mais ils vont chercher ces gens qui sont consommateurs de sport et qui veulent du plus par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, Netflix, Amazon...
Oui.
Alors, hormis les contenus originaux, mais on voit souvent des contenus qui passent d'une plateforme à l'autre.
Et puis quand t'es fan de foot... T'es fan de foot, quoi. T'es prêt à que tu mettes 15 euros chez Canal ou 15 euros chez Amazon. En fait, tu t'en fous.
Exactement.
Tu veux voir tes matchs.
Exactement.
Il y a une espèce de ferveur et de passion autour du sport qui fait que, bah voilà.
C'est un bon investissement.
C'est un bon investissement.
Roland-Garros, c'était gratuit en plus, je crois.
Et puis en plus, chez Amazon, il faut avoir l'Amazon Prime. Donc en fait, c'est le double effet qui se coule. T'es obligé de t'abonner à Amazon Prime pour après prendre l'option foot.
Mais Amazon Prime, on sait que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rentable.
C'est vrai.
Même là où ils viennent de.
Aussi, au
c'est rentable et pratique. Mais ce qui est drôle avec Apple, c'est qu'Apple, ils y vont par touche, comme tu dis. Donc, ils ont pris le match du vendredi en baseball. Donc, ça, c'est pareil, c'est un grand rendez-vous. Ils ont pris la MLS, le football américain, qui est un petit peu moins populaire que le football en Europe, ça c'est
oui,
sûr,
oui,
mais
c'est sûr.
Déjà ça.
Ouais.
Et puis là, ils s'offrent quand même juste le Halftime Show.
Alors, qu'est-ce que c'est que le Halftime Show ?
Alors, pour ceux qui ne suivent pas la NFL, le Super Bowl, c'est, voilà, c'est celui de l'année dernière, c'est vraiment la grande fête, c'est la finale, c'est la super finale du championnat. C'est en général fin janvier, début février. Et le show de la mi-temps, c'est une institution. C'est-à-dire qu'un artiste qui passe là, il y a eu les plus grands. Il y a eu les Rolling Stones, Michael Jackson, Madonna, enfin, tout le monde y va.
Et là, c'est Rihanna, là, je crois, non ?
Là, c'est Rihanna. Alors, il y a eu ça qui était très drôle, c'est qu'il y a eu des rumeurs, ça a été Taylor Swift annoncé, puis Rihanna. C'est Apple qui se l'offre. Jusqu'à présent, depuis, je crois, une dizaine d'années, c'était le Pepsi Halftime Show. C'est quand même, c'est pareil, quand vous arrivez à coller votre nom
là-dessus,
on parle d'un événement qui est regardé par des centaines de millions de gens.
Je pense que ça doit dépasser le milliard si tu rajoutes...
Oui, on n'est pas loin, mais il y a des gens qui ne regardent, qui n'attendent que ça.
Oui, qui n'aiment pas le foot, mais qui se regardent.
Moi, j'adore la NFL, je regarde tout, ce n'est pas forcément le moment qui m'intéresse le plus. Mais c'est... Et puis, voilà, c'est un truc qui coûte des millions
sûr,
et des millions.
Qui est calé au millimètre près. C'est vraiment un truc... C'est une institution.
Oui, et puis alors, je vous encourage à regarder juste l'installation de la scène à chaque fois. C'est impressionnant parce que là, on voit... Alors là, il y a plein, des dizaines et des dizaines de danseurs. Il y a souvent du public ou d'autres danseurs devant la scène. Enfin, c'est un truc impressionnant. Mais pour Apple, quelle vitrine. Vitrine pour Apple Music, déjà, puisqu'on fait venir des artistes qui sont dessus. Donc, c'est toujours ça de gagner. Vitrine aussi pour se dire, on est là. Parce qu'il y a une renégociation des droits du football américain. Ça, aux États-Unis, c'est un truc... Amazon a pris un match le jeudi soir. Disney a longtemps été annoncé comme acheteur potentiel d'un pack de matchs diffusé sur Disney.
Donc, à ton avis, ça va être le prochain truc qui va...
Là, c'est le nouveau terrain de bataille.
Super Bowl, ça va...
Il n'y a que Netflix. En fait, Netflix, on les entend pas.
Ouais, c'est vrai.
Ils font des documentaires super.
Ouais. Mais ils sont complètement inexistants sur le sport.
Mais sur le live...
Sur le live, d'une manière générale. C'est vrai qu'il n'y a pas de live.
Ils avaient tenté en France de sortir une télé en live. Direct. Alors, je crois qu'elle existe toujours. Je ne sais pas comment elle marche.
Oui, mais enfin, ce n'est pas du vrai live, en fait.
C'est leur
programme. Ça te lance des programmes à la suite.
Mais continue. C'est une vraie chaîne avec des programmes, mais il n'y a pas d'événement en direct.
Non.
Ils ne vont pas du tout sur le sport. Alors, peut-être qu'ils vont nous faire un truc d'un seul coup. On va les voir arriver. Mais, par exemple, ils n'y vont pas. Pour Apple, pour moi, le Halftime Show, choper le Halftime Show, c'est énorme. Ils vont pouvoir se faire de la promo.
Mais est-ce qu'il sera gratuit, à ton avis, pour tous les spectateurs?
Bien sûr. Le Super Bowl, c'est un événement gratuit.
D'accord.
Aux États-Unis, si un jour il y a il y a quelqu'un qui dit je vous le mets sur une chaîne en pay-per-view,
ça va exploser.
C'est un rendez-vous, c'est la grand-messe.
Oui, c'est une institution.
Et les familles sont prêtes là-dessus. Enfin, c'est un truc qu'on s'organise le dimanche.
Rappelons combien coûte le spot de pub pendant ces trucs-là. C'est incroyable. Il y a des boîtes qui investissent des.
Il y a des dizaines de millions sur certains spots. On parlait d'Amazon. Amazon a eu, par exemple, la très bonne idée pendant longtemps de se mettre avec des pubs délirantes au Super Bowl. Tous les ans.
Tous les ans
pour
petit Alexa, à petit, tu...
avec leur star. Et mine de rien, quand ils sont arrivés pour dire hey, les gars, on a acheté le match du jeudi soir, qui est pareil.
Ça paraissait quasi normal. Quoi.
Finalement, ok, pas de problème.
Voilà, passionnant tout ça. Merci Mélinda.
Mais écoute, c'était avec plaisir.
Quel plaisir de te retrouver. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent partagent le plaisir que j'ai pu avoir de te retrouver dans De quoi je me mêle. C'était la première d'une longue série sans doute. Merci.
Je reviendrai.
Est-ce que tu t'intéresses à l'actualité spatiale?
Oui, mais je ne suis pas une grande connaisseuse, mais j'aime bien les étoiles. C'est mon côté un peu rêveuse de temps en temps.
Eh bien, on va en parler avec Antoine Meunier qui va... Alors là, ce n'est pas trop du rêve, c'est vraiment la conquête spatiale, hein, à la fois la mission DART, on va évoquer aussi la mission Artemis, et puis aussi s'intéresser à ce salon qui a eu lieu il y a quelques temps de cela, Porte de Versailles, à quelques kilomètres d'ici, à Paris, dédié à l'espace et français aussi. On en parle dans un instant avec Antoine qui me rejoint sur ce plateau. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Nous voilà de retour, deuxième partie de quoi je me mêle. Peut-être êtes-vous en train de nous regarder ou nous écouter sur BFM Business le week-end, en podcast audio, sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co. Dans l'actualité des nouvelles technologies, bien sûr, il y a aussi l'actualité spatiale et on va en parler cette semaine avec Antoine Meunier, qui nous a rejoint sur le plateau de quoi je me mêle. Salut Antoine.
Salut François.
Ravi de te retrouver.
C'est un plaisir partagé.
Pour cette rentrée, Antoine Meunier, qui est un journaliste expert dans ce domaine, rédacteur en chef de la chronique spatiale, mais aussi auteur de ce bouquin qui vient de sortir, Le vol habité européen, parce que on parle de souveraineté dans énormément de domaines, mais il faut aussi une souveraineté spatiale. Tu nous expliques tout ça, Le vol habité européen, le long chemin, paru aux éditions L'Harmattan. Tu nous racontes un petit peu l'histoire de l'épopée spatiale européenne et puis surtout où on va, non ? C'est ça ?
En gros, c'est une photographie des 40 dernières années dans le domaine du vol habité à l'échelle, au niveau européen. Mmh. C'est-à-dire, quand on parle du vol habité, on parle de deux choses. On parle d'une part du moyen de transport pour rejoindre la destination, et d'autre part, on parle aussi de la destination, à savoir les modules pressurisés qui pourront être installés soit sur l'orbite de la Terre, soit sur la Lune, et puis à plus longue échéance, c'est Mars. Dans ce domaine, l'expertise européenne, elle est très forte. Hein, je parle des modules, donc, puisque si on prend les modules de la station spatiale, la majorité de la, des modules de l'ISS, ils sont fabriqués en Italie, chez Thales Alenia Space. Aujourd'hui, ce qui manque en Europe, c'est un moyen de transport.
C'est le lanceur. Enfin, c'est le lanceur.
Non, c'est pas ça. Le lanceur, c'est le moyen de transport pour acheminer les astronautes.
C'est ça.
C'est ce qui nous manque.
La petite navette spatiale, quoi, en quelque sorte.
C'est pas la petite navette. Oui, on peut dire ça comme ça.
Voilà,
effectivement.
Pour qu'on comprenne.
Pour faire simple, effectivement, c'est la petite navette spatiale ou la capsule, la capsule spatiale. Voilà.
Donc voilà, le vol habité européen dans toutes les bonnes librairies. Antoine, on va jeter un œil sur l'actualité, alors qui est bouillante en ce moment.
Oui. Hein,
actualité spatiale très très chargée. Entre Artemis, le salon IAC qui s'est déroulé porte de Versailles il n'y a pas si longtemps que ça, et DART. Alors là, c'est très très chaud, puisque c'était en tout début de semaine, je crois. Hein.
C'était dans la nuit de lundi à mardi.
Lundi à mardi.
Voilà. La NASA a rejoué Deep Impact, en gros, pour faire simple.
L'idée... C'est la réalité qui rejoint la fiction, là, cette histoire-là.
Oui, on peut dire ça,
c'est fou,
ça comme ça, effectivement.
Armageddon.
L'idée, c'est avant tout de voir s'il est possible de dévier un astéroïde de sa trajectoire. Alors là, c'est vraiment de la science-fiction, enfin, plus tellement, puisque là, c'est de la réalité, on l'a fait. Est-ce qu'on peut dévier un astéroïde de sa trajectoire pour éviter qu'il ne s'écrase sur Terre? C'était le but de cette mission DART. L'engin n'est pas très gros, hein. Il fait à peu près 600-700 kilos, mais s'il peut dévier quelques centimètres...
600-700 kilos, à quelle vitesse? 22 000 km/h, je crois, non?
À peu près 6 km par seconde, c'est grosso modo, c'est à peu près ça.
Donc ça fait quand même...
Ça va très vite.
C'est pas mal.
Ça va très très vite. Une fois que ça percute, il y a eu des photos qui ont images...
C'est une petite pichenette, quoi, en quelque sorte.
C'est une petite pichenette, mais ça peut suffire à dévier la trajectoire de l'astéroïde. Alors, on ne va pas le savoir tout de suite.
On
le saura dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais pas avant.
Il faut recalculer la trajectoire.
Le temps surtout que les données du petit, du petit CubeSat, du tout petit satellite qui a pris les photos, qu'on voit d'ailleurs sur le site de l'agence spatiale italienne, il faut que ces photos soient transmises, il faut que les calculs soient transmis, et le débit est très très faible.
On est à 11 millions de kilomètres là, non?
On est à 11 millions de kilomètres de la Terre, et surtout on peut recevoir qu'une seule photo à la fois, donc là ça prend du temps.
Voilà, bon, passionnant, parce que ça veut dire que, moi ce que je trouve très intéressant dans cette histoire-là, c'est que la NASA prend très au sérieux malgré tout, la possibilité que dans 10, 100, 1000 ans, 10 000 ans, il y ait un astéroïde qui percute la Terre. Et donc, ils essaient de trouver une solution pour éviter une catastrophe.
François, tu sais pourquoi est-ce que les dinosaures sont morts ?
Alors, oui, mais tu sais que c'est assez...
Je vais te répondre, parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Non, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est un écrivain de science-fiction qui s'appelle Larry Niven, et comme quoi il n'avait pas...
Mais il y a une polémique là-dessus, hein, parce que certains scientifiques disent que ce n'est pas à cause de l'impact d'un astéroïde
c'est
que
l'hypothèse,
les dinosaures ont disparu.
C'est l'hypothèse quand même la plus communément
la plus
admise, à savoir qu'un astéroïde a percuté la Terre il y a 65 millions d'années, et que ça aurait entraîné l'extinction des dinosaures. Alors, l'idée principale pour donner une sécurité à la Terre, ça serait justement de dévier l'astéroïde de sa trajectoire, parce qu'une mission façon Bruce Willis, ça c'est pas possible.
C'est pas possible.
Il faut un préavis qui soit très long, relativement long, et si on envisageait un tir de missile nucléaire à la surface de l'astéroïde, ça aurait un effet totalement négligeable. L'impact cinétique, c'est ce que la NASA a fait il y a trois jours maintenant, c'est vraiment... On pense que c'est la technique la plus prometteuse. Après, il faudra vérifier si oui ou non ça a fonctionné. Il y a une mission européenne qui doit partir dans deux ans, qui s'appelle ERA, qui va inspecter les abords du cratère qui a été provoqué par DART.
Voilà, inspecter donc le trou qui a été fait par
le... Oui, tout à fait, c'est ça. On va le faire, mais pas avant 2024.
Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet, si ce sujet vous intéresse, à retrouver Tech & Co. C'était mardi dernier. Avec Sylvain Laudieu, qui est le chef de l'unité des opérations des missions ERA, qui était mon invité, avec Jean-Baptiste Suette, qui est un journaliste passionnant qui travaille à BFM Business et qui s'occupe de l'espace, à retrouver donc mardi soir dans Tech & Co, mardi 27. Dans l'actualité aussi, Antoine, c'est ce salon IAC.
Tout à fait.
Alors, qui n'est pas connu du grand public, parce que, bon, voilà, hein, c'est l'espace, c'est un sujet, on va dire, très sérieux et qui intéresse beaucoup de professionnels, mais qui est malgré tout très intéressant. Il sert à quoi ce salon IAC qui s'est déroulé porte de Versailles il y a quelques jours ?
Alors, l'IAC, c'est un salon, c'est l'International Astronautical Congress. C'est un salon qui existe depuis 1950. En 1950, l'espace, c'était de la science-fiction pour tout le monde. Aujourd'hui, l'espace, c'est un business comme un autre, avec des projets extrêmement ambitieux, d'autres qui sont également extrêmement, peut-être plus accessibles. C'est la grand-messe du spatial mondial. L'an dernier, c'était à Dubaï. Cette année, Cocorico, c'était à Paris. C'est la quatrième fois que l'IAC revient à Paris. Les institutions, les industriels se retrouvent pour évoquer les grandes orientations programmatiques d'une part, mais c'est aussi l'occasion de signer des contrats.
Salon international.
Salon international. Donc, toute la filière était présente.
Sauf la Russie. Était banni, vraiment ?
Alors, il n'y avait aucune représentation officielle de la Russie, mais si des chercheurs voulaient venir à titre privé, bien évidemment, ils étaient tout à fait bienvenus.
Alors, on peut reprocher plein de choses à la Russie, mais il faut reconnaître qu'en termes de recherche spatiale, de conquête spatiale...
Ce sont, avec les États-Unis, la Russie, c'est les deux premières puissances spatiales de l'histoire.
D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations entre la Russie et les États-Unis.
Malheureusement, aujourd'hui, les collaborations
sont gelées.
À l'exception de l'ISS, elles sont malheureusement terminées. Mais peut-être que d'ici quelques années, tout le monde espère que la Russie puisse revenir.
L'IAC, on parlait beaucoup de tourisme spatial, par exemple.
Alors, on a évoqué le tourisme spatial. Il y a une petite entreprise qui a une idée assez ambitieuse, assez innovatrice, Stratoflight, dont on voit la photo à l'instant.
Si vous êtes avec nous à la télé,
voilà, c'est une petite nacelle qui va monter à 35 000 mètres d'altitude à l'aide d'un ballon gonflé au gaz décarboné. Donc déjà du tourisme vert. Ça, c'est plutôt
comme un ballon dirigeable, en fait.
C'est comme un ballon
dirigeable. Ou un montgolfière.
Mais il y a une petite nouveauté. C'est qu'arrivé à 35 000 mètres, tu peux vivre une expérience astronaute. Tu sors sur la passerelle de la nacelle. On la voit pas très bien, malheureusement. Mais tu es vêtu d'un scaphandre et tu peux profiter d'une vue de la rotondité terrestre.
Parce que tu es à 35 km d'altitude.
À 35 km.
Bon. Imaginez, vous êtes à 35 km d'altitude de la planète. Qu'est-ce qu'on voit à 35 km ?
La courbure terrestre, l'horizon sur plusieurs centaines de kilomètres, le silence aussi, parce que à 35 000 mètres...
T'es dans l'espace quand même, à 35 km ou pas ?
Tu es encore dans l'atmosphère terrestre. La limite de l'atmosphère terrestre, c'est 100 km d'altitude.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà. Au-delà de 100 km, on estime que les molécules d'air ne sont plus suffisantes pour imposer une résistance aérodynamique. Donc du coup, au-delà de 100 km, on considère qu'on est dans le domaine spatial.
D'accord.
Mais à 35, là, tu es encore dans le domaine aérien.
Donc, alors que c'est beaucoup plus haut que, on va dire, l'altitude de croisière des vols, par exemple.
C'est beaucoup plus haut.
Les avions sont à 10 km,
Grosso modo, oui, c'est à peu près ça.
Donc là, on est à 35
km. On est à 35 000 mètres. Là, il n'y a pas d'air. Tu as besoin d'un scaphandre.
D'accord. Donc tu es dans une espèce de
cabine. Tu es dans une nacelle, une cabine, et il y a une partie ouverte où tu pourras sortir.
Un petit balcon
où tu pourras profiter de la vue. C'est une expérience astronomique. Mais sans apesanteur.
Incroyable.
Ça sera peut-être le cas vers 2025-2026.
Et c'est une boîte française
toute petite start-up qui était présente d'ailleurs sur le stand du CNES. Et ils veulent développer ce type de tourisme spatial, entre guillemets, mais avec une forte connotation verte, si je puis dire, parce que l'idée, c'est de faire grimper la nacelle avec du...
Et comment tu réatterris, là ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu redescendes.
Alors, tu réatterris, bien sûr, la nacelle est équipée d'ailerons, donc il y a un déport latéral qui peut se faire, mais tu vas te poser sous un parafoil, ce qui permet de faire un atterrissage de précision. C'est une grande voile parachute, si tu préfères.
D'accord. Donc, en fait, on oublie le ballon.
On utilise le ballon pour monter,
ouais.
Mais on redescend.
On redescend
ensuite,
avec une grande voile.
On descend ensuite avec une grande voile qui va s'ouvrir, je crois, à quelques milliers de mètres d'altitude et qui permettra un atterrissage de précision.
Incroyable.
C'est pas encore prêt.
C'est
pas encore prêt.
C'est du concept encore.
Mais d'ici 2025 ou 2026, pourquoi pas?
C'est intéressant, hein? Oui. On verra bien. Il faut voir après le prix du billet là-dedans.
C'est en quelques centaines de milliers d'euros.
Quand même.
Oui.
C'est ça.
À peu près, 180 000 euros. Je te cite ça de mémoire.
Qu'est-ce que tu as noté aussi, on va dire, d'impressionnant? Qu'est-ce qui t'a marqué lors de ce salon IAC? Et après, on parlera d'Artemis, bien sûr.
Ce qui m'a marqué, c'est l'annonce d'Ariane Group, qui a gardé le secret maintenant depuis près de 3 ans et qui a dévoilé un concept de véhicule spatial habité capable de transporter 5 personnes, ouais. Et en gros 7 tonnes de fret. Alors, je précise tout de suite, c'est pas parce qu'Ariane Group dévoile un concept de vol habité qu'on va faire du vol habité en Europe. Il y a plusieurs étapes à franchir. Déjà, Ariane Group...
Oui, là, c'est le point de départ, en fait, d'un projet, c'est ça.
C'est le point de départ d'un projet, mais surtout, Ariane Group se positionne sur ce créneau du vol habité. Ils l'ont annoncé déjà dès le début de cette année, mais ils n'avaient pas dévoilé encore leur projet. Leur projet, donc, s'appelle SUSY, Smart Upper Stage for Innovative Exploration, étage supérieur intelligent pour exploration innovante. Et ils se positionnent pour le vol habité, c'est-à-dire que s'il y a un engagement politique derrière, ils peuvent dire, bien écoutez, nous sommes prêts pour faire un véhicule habité. On peut le faire avec des éléments déjà existants. L'élément déjà existant, c'est Ariane 6, que tout le monde attend maintenant en principe d'ici à partir de la fin du mois de juin pour le vol inaugural. Voilà Ariane 6 d'ailleurs.
L'idée, c'est un beau bébé. Hein.
C'est un beau bébé. Alors, elle n'est pas à l'échelle...
Non.
La vraie fera à peu près 60 mètres de haut.
Ouais.
Mais l'idée, on remplace l'étage supérieur et on pose SUSY au sommet. C'est très innovant. C'est très innovant parce que ça fait appel à toutes les technologies qui ont été testées depuis à peu près une trentaine d'années. Ça n'est pas un avion, ça n'est pas une capsule, c'est un peu un mix de tout ça. C'est ce qu'on appelle un corps portant. Voilà SUSY. Alors SUSY, c'est un corps portant, c'est-à-dire que l'engin va rentrer dans l'atmosphère terrestre, il va se freiner exactement comme le faisait tout engin spatial qui fait une rentrée atmosphérique. Mais surtout, il va se poser à la verticale, exactement comme le ferait le Starship d'Elon Musk.
Donc il se pose à la verticale, en fait.
Il va se poser à la verticale. Et là, on le voit sur la vidéo, alors pas ici, mais à l'arrière, il y a des longerons, des espèces de longerons noirs qui vont permettre d'assurer la direction de l'engin.
Voilà, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, ça ressemble à au bout d'une fusée, en quelque sorte.
C'est un véhicule de science-fiction, quelque part.
C'est dingue.
Mais c'est assez... Ouais. C'est très innovant. On passe à une étape supérieure.
Là, et c'est bien parce que la France, enfin, en tout cas, voilà, il y a une espèce de reprise en main de cette partie-là.
Il y a une reprise en main, mais là, vraiment, j'insiste bien, pour le moment, il n'y a pas de volonté politique.
Non.
Si on franchit une étape, c'est-à-dire qu'on décidera de lancer une étude de faisabilité pour voir si c'est possible. Dans un an, à ce moment-là, on pourrait décider si l'étude de faisabilité est lancée lors de la conférence ministérielle. Après, d'ici un an, on pourrait dire « Ok, on peut passer à l'étape supérieure et on va dépenser quelques dizaines de millions supplémentaires. » S'il y a une vraie décision importante, ça ne sera pas avant 2025.
Voilà, mais bon. En tout cas, voilà, c'est l'émergence, la naissance d'un projet passionnant. Dans l'actualité spatiale aussi, c'est Artemis, bien sûr, difficile de passer à côté de de ces rebondissements malheureux concernant Artemis. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est un échec, parce que pour l'instant, rien n'a été lancé, mais c'est vrai que les débuts sont un peu compliqués. Voilà. Entre les problèmes techniques du départ, les problèmes météo, Artemis, rappelons-le, c'est la reconquête de la Lune.
Tout à fait.
On est d'accord.
Tout à fait. Par les Américains et les Européens.
Et les Européens aussi, bien sûr, puisque la France s'est présente aussi à pas mal d'endroits. On en est où donc d'Artemis?
Le SLS, la grande fusée qui est un petit peu la descendante de Saturne V, la voilà, je l'ai apportée ici en petit. C'est une grande fusée, près de 100 mètres de haut, 98 mètres précisément. On a été obligé de la ramener au hangar, le VAB, le bâtiment d'assemblage des véhicules, pour la protéger, parce qu'en ce moment il y a un ouragan sur la Floride. Il y a eu les problèmes techniques fin août, début septembre. On a donc dû essayer de réparer un petit peu tout ça. Maintenant, c'est le lancement n'est pas attendu avant le mois de novembre, parce qu'il faut remettre la fusée en état. Il faut vérifier que tout va bien, parce qu'elle parcourt quand même, entre le bâtiment et le pas de tir, à peu près 6-7 km installé sur un immense chariot. Et tout ça fait à peu près 3000 tonnes. Donc ça stresse la fusée, il y a des contraintes qui sont exercées sur la fusée, il faut vérifier que tout ça va bien, et puis ensuite la ramener sur le pas de tir. Mais quand ça sera pas avant la mi-novembre.
D'accord, donc là elle re-rentre dans sa petite maison.
Ils
vont tout vérifier, les boulons, etc., voilà. Voir si tout va bien.
Voilà.
Et dès que le temps sera plus clément. En tout cas probablement avant la fin de l'année. Oui, tout va bien.
Oui, a priori avant la fin de l'année, mais pas avant la fin novembre.
D'accord. Voilà. Bon, et rappelons la mission Artemis. C'est la première étape d'une longue saga.
C'est la première étape d'une toute une série de missions en direction de la Lune.
Dont la finalité est que l'homme se repose sur la Lune,
oui,
on est d'accord.
Ça, c'est pas avant 2025.
Bien sûr.
Alors, Artemis
2025, c'est bientôt, hein. Enfin, ça va vite arriver.
Oui,
hein.
Mais il faudra d'abord envoyer un véhicule autour de la Lune. Orion, que tu vois ici. Mmh. Alors, Orion, en fait, il a un module de propulsion. Là, ça n'est que la capsule habitable avec l'équipage. On va, avec cette mission Artemis 1, on va essayer de vérifier que tout va bien sur le vaisseau.
D'accord. Il y a des mannequins à l'intérieur. Il n'y a pas de présence humaine, hein, bien sûr.
Non, pas dans l'immédiat. Il y aura deux mannequins qui vont bardés de capteurs pour essayer de vérifier les taux de radiation que les astronautes pourraient encaisser. Il y a également un mannequin avec un scaphandre. On va vérifier que ce scaphandre est parfaitement safe pour les astronautes. Et cette mission, elle durera à peu près entre 30 et 40 jours. Mais l'idée, c'est de pousser le vaisseau au maximum pour voir jusqu'où on peut le faire tenir. Et l'inconnu ensuite, enfin l'étape importante, ça sera la rentrée atmosphérique. Pourquoi ? Parce qu'on va tester le bouclier thermique. Le bouclier thermique, c'est ça, c'est cette partie qui est ici et qui doit absolument protéger l'équipage lors de...
Ça, c'est dans Artemis 1.
Artemis 1.
Avec les fameux mannequins.
Avec les mannequins. Et fin 2024, normalement, en 2024, Artemis 2, là, on fera le tour de la Lune avec un équipage de 4 personnes.
Oui. Là, des vrais humains.
Oui, mais on va refaire Apollo 8.
D'accord.
Apollo 8, c'était la première mission lunaire habitée. On va refaire ça. On pourrait se poser la question, mais bon, pourquoi est-ce qu'on en passe par cette case de validation ? Parce que c'est un vaisseau qui est tout neuf, simplement.
Bien sûr, ouais.
C'est un vaisseau qui est tout neuf, on doit le tester. Au même titre qu'on va tester un avion, qu'on va tester une voiture.
Mais ce qu'il y a de fascinant, je trouve, c'est que finalement, il y a plus de 50 ans, l'homme posait pour la première fois le pied sur la Lune. Et on recommence avec autant de précautions, finalement, tout ce qu'on avait mis en place il y a plus de 50 ans.
Mais c'est normal.
Non, mais bien sûr.
Mais c'est normal.
Le progrès technologique n'empêche pas de réduire les étapes.
Mais François, c'est ce que je dis. C'est un vaisseau qui est tout neuf. C'est un vaisseau qui est tout neuf. On est obligé de le tester pour vérifier que tout est parfaitement nominal.
Bien sûr.
Et puis surtout, l'idée, c'est pas de refaire ce qu'on a fait il y a 50 ans. C'est de poursuivre ce qu'on a entrepris il y a une cinquantaine d'années et d'essayer de faire émerger une économie lunaire, peut-être d'ici la fin de la décennie.
Voilà, donc l'homme sur la Lune, ça sera sans doute en 2025 si tout va bien, s'il n'y a pas de retard.
2025, 2026.
2026. Est-ce que c'est déjà aussi les prémices de l'après, du plus loin, de Mars ? Est-ce que, mine de rien... On teste des choses qui pourraient après être déployées pour un éventuel projet martien.
Alors, en tout cas, c'est comme ça que la NASA...
Parce qu'il y a Elon Musk dans l'histoire.
Il y a Elon Musk qui est dans l'histoire. Pour aller vers la Lune, on a besoin d'un vaisseau pour aller jusqu'à la Lune et pour se poser à la surface de la Lune. Elon Musk et enfin SpaceX est un des prestataires pour fournir ce véhicule d'alunissage, d'atterrissage lunaire. Donc, pour l'instant, le véhicule n'est pas encore prêt. Ça va prendre encore du temps. Pour ce qui est de Mars, je te dirais qu'il faut peut-être d'abord gravir le Mont Blanc. Avant de
partir sur l'Everest.
Avant de partir sur l'Everest, oui. Ouais. Mais ça, peut-être en 2035, 2040. Ouais. 2040, allez, on va être optimiste.
2040.
Voilà.
Oh, allez, c'est dans quoi 15 ans
18 ans, oui.
Ouais, 18 ans.
18 ans, on a encore le temps.
On aura l'occasion d'en parler, bien
j'espère
évidemment.
Bien, ouais.
Merci beaucoup. Merci Antoine. Antoine Meunier, donc, rédacteur en chef de la chronique spatiale, le site web qui vous attend. Et puis, donc, cet ouvrage disponible depuis peu, Le vol habité européen, paru aux éditions L'Harmattan. Merci Antoine.
Merci à toi.
Ce de quoi je me mêle est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Profitez bien de ce week-end. Merci de nous suivre. On sera de rendez-vous, bien sûr, dès la semaine prochaine. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.